regard chrétien sur le monde.
Chaque jour, les journaux télévisés de tous les pays du monde font état des désastres écologiques qui affectent notre planète. Principale préoccupation aujourd'hui, le réchauffement climatique. De conférences en sommet Kyoto, Nairobi, dirigeants politiques alertés par la communauté scientifique cherchent des solutions pour enrayer la catastrophe qui se profile. Le responsable du problème, l'homme, et surtout ses modes de vie. Alors quel regard les chrétiens peuvent-ils porter sur les problèmes écologiques, quelles responsabilités ont-ils face à la dégradation de l'environnement et quelle voix nous chrétiens pouvons-nous faire entendre sur ces sujets? Pour nous guider dans cette réflexion, Jean-Marie Pelt, président de l'Institut européen d'écologie et auteur de nombreux ouvrages sur le monde des plantes et l'écologie.
Il y a une unanimité ou une quasi-unanimité dans le monde scientifique des climatologues, ce qui est d'ailleurs rare dans le monde scientifique, qui ne connaît pas les unanimités, pour considérer que le réchauffement climatique est dû au dégagement massif de gaz à effet de serre et en particulier de gaz carbonique liés aux combustions de nos appareils de chauffage, de nos voitures, de nos industries. Ce qu'on sait, c'est que le réchauffement actuel, qui est déjà d'un degré, pour le siècle dernier, n'est plus réversible. Quoi qu'il puisse arriver, il y aura un réchauffement climatique qui sera ou moyen, ou fort, ou très fort, ou dramatique. C'est vraiment un problème réel, c'est même une des questions écologiques sur laquelle il y a vraiment un consensus très très large.
Dieu dit que la terre verdisse de verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa. Dieu les bénit, et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. » Dieu dit « Je vous donne toutes les herbes portant semences qui sont sur toute la surface de la terre et tous les arbres qui ont des fruits portant semences. Ce sera votre nourriture. À toutes les bêtes sauvages, à tous les oiseaux du ciel et à tout ce qui rampe sur la terre et qui est animé de vie, je vous donne pour nourriture la verdure des plantes. » Et il en fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela était très bon.
Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la. Alors, est-ce que les catastrophes écologiques que l'homme a provoquées découleraient d'une mauvaise interprétation de ce passage de la Genèse ?
Ce verset a été à la base de polémiques qui n'en finissent plus depuis une quarantaine d'années. L'idée de se soumettre-là, c'est l'idée d'un homme très fragile en face de la nature. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres textes qui nous confient la nature, qui la mettent sous notre responsabilité. Dès lors que nous avons accédé à la conscience, nous avons une responsabilité par rapport à tous les êtres vivants. Et c'est cette responsabilité que nous devons mettre en œuvre.
Quels sont ces autres textes auxquels vous faisiez allusion ?
Ce texte qui est un mythe très fort du Jardin d'Éden où l'homme est en paix avec son créateur et aussi avec tous les êtres et plantes qui vivent dans le jardin. Ce qui veut dire que dans notre inconscient collectif, nous portons en nous l'image de cette harmonie et de ce paradis perdu. C'est c'est quelque chose qui reste en nous comme une sorte de nostalgie. Et d'un autre côté, je pense au très beau texte d'Isaïe qui dit « Viendra un jour où il y aura une réconciliation générale, où le lion et l'agneau vivront en commun, où le bœuf et le lion mangeront de la paille ensemble. » J'allais dire, il y a ce rêve d'une sorte de réconciliation, d'une nature qui certes peut être très cruelle, comme l'homme peut être très cruel, mais d'une nature qui petit à petit, dans ses rapports avec l'homme, s'humanise, dans la mesure où l'homme s'humanise lui-même, pour aller vers cette réconciliation que la tradition chrétienne renvoie à la fin des temps.
Et quel est alors le rôle que les chrétiens peuvent avoir ou doivent avoir face aux problématiques du réchauffement de la planète, de l'écologie, de la nature ?
Il faut que les chrétiens soient sensibilisés à ces questions. Il y a eu un retard à l'allumage parce que dans le monde chrétien et le monde catholique en particulier, il y a eu une inflexion très importante qui s'est produite au Moyen-Âge et plus encore à la Renaissance où la nature a été un petit peu reléguée au profit de l'homme. Pour les pères de l'Église, Dieu se révélait par la Bible et par la nature. On a continué à dire bien entendu que Dieu se révèle par la Bible, mais on a petit à petit oublié la nature, et surtout après François d'Assise, qui a été le dernier grand cri dans ce domaine, on n'a plus regardé et vu que l'homme, comme s'il pouvait être coupé de son environnement et de la nature, alors que son corps c'est la nature, et qu'il ne peut vivre que dans la nature. Aujourd'hui, nous commençons à inverser ce mouvement qui a été très très fort, en tout cas dans le christianisme occidental. Le monde chrétien redécouvre son lien avec la nature. Et je souhaiterais, moi, que les chrétiens, qui sont très sensibles à la protection de la vie, soient surtout sensibles à la protection de la vie globale, pas seulement la vie humaine, mais la vie tout court. Parce que s'il n'y a pas de plantes, nous mourrons tous. Donc nous devons protéger la vie dans sa globalité. Et donc notre discours doit se dilater à l'ensemble des êtres vivants. Parce que nous n'avons pas assez compris que nous sommes tributaires du monde vivant, pour notre nourriture, pour nos médicaments, pour tout. Et que par conséquent, c'est la vie tout entière que nous devons protéger.
Et face aux constats dramatiques, aux prévisions catastrophiques, face à ce compte à rebours environnemental, est-ce qu'il reste des sources d'espoir ?
Quand on est chrétien, on est détenteur d'une immense espérance. Moi, je pense qu'il y a deux écoles. Il y a l'école de ceux qui considèrent que la situation est désespérée, que c'est déjà trop tard, que nous sommes une espèce très agressive, nous démolissons la planète, nous nous démolissons nous-mêmes entre nous par des guerres qui n'en finissent plus, et que par conséquent il faut baisser les bras. Et puis il y a ceux qui pensent que ça c'est pas une fatalité, que nous avons à être des artisans de paix, des serviteurs de la vie, et moi je pense que le jeu en vaut la chandelle, je pense qu'il faut que les chrétiens soient très ouverts sur le monde extérieur et qu'ils apportent à ce monde extérieur qui est en panne de référence et en panne de valeur la force et l'élan et la puissance de leur espérance et de leurs valeurs. Des valeurs d'amour qui peuvent se répercuter, bien entendu, au sein de la commune humanité, mais au-delà pour tous les êtres vivants.
Merci à Jean-Marie Pelt, président de l'Institut européen d'écologie, de nous avoir proposé son éclairage chrétien sur l'environnement.